Bonjour à chacun. Vous le savez, le Nouveau Testament parle de la venue de Jésus sur terre. Ce n'est pas un scoop. Il y a maintenant 2000 ans. Et il annonce aussi, donc, le Nouveau Testament, son retour, sans donner, il est vrai, beaucoup de précisions. Un retour qui fait partie de l'espérance chrétienne, qui fait partie de notre espérance si nous sommes en Christ. Ceci dit, dès le départ, ce sujet du retour de Jésus a été mal compris. En effet, les premiers disciples s'attendaient à ce que Jésus revienne rapidement, qu'il revienne de leur vivant. Mais seulement les années ont passé, les années ont passé et Jésus n'est pas revenu. Pourtant, il avait dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et en parlant des temps de la fin, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ces paroles mal comprises et qui se sont certainement accomplies lors de la transfiguration pour la première et lors de la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains pour la seconde, ces paroles, donc, les ont poussés à croire au retour de Jésus de leur vivant. Mais voilà, Jésus n'est pas revenu de leur vivant. Et cela a fini par susciter des moqueries. Des moqueries dont l'apôtre Pierre parle dans sa deuxième lettre. Des moqueries qui n'ont jamais vraiment cessé depuis. Des moqueries auxquelles nous pouvons nous-mêmes être confrontés parfois. Et pour répondre à ces moqueurs, l'apôtre Pierre va affirmer la certitude du retour de Jésus et il va donner plusieurs arguments pour étayer ce qu'il va dire. Et je vous propose de considérer ce passage ce matin qui se trouve donc dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Pierre 3, versets 1 à 13. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumé. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Avant de considérer les arguments de l'apôtre pour étayer son affirmation de la certitude du retour de Jésus, nous allons considérer brièvement l'argument des moqueurs. Quel est-il ? Nous le trouvons au verset 3 et 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, dit Pierre, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. L'argument des moqueurs est simple. Les années ont passé et nada. Rien. Rien ne s'est produit. Rien de ce qu'on avait attendu n'est arrivé. Les pères sont morts, dit-il, et tout est comme avant. Alors les pères sont pour certains les patriarches, et puis pour d'autres, ce sont les chrétiens morts depuis l'ascension de Jésus, en particulier ceux qui annonçaient, qui affirmaient la venue imminente de Jésus, enfin le retour imminent de Jésus. Ils auraient dû voir Jésus de leur vivant, mais il n'est toujours pas revenu. Et les moqueurs s'en donnent à cœur joie. Où est la promesse de son avènement? En réalité, disent-ils, rien n'a changé depuis le commencement de la création et rien ne changera. Finalement, l'annonce du retour de Jésus n'est qu'une fable à leurs yeux. Alors, face à cet argument très contestable des moqueurs, Pierre a quelques arguments à faire valoir en retour. Quelques arguments de poids pour affirmer la certitude du retour de Jésus. Et il commence par un argument tiré de l'histoire. Versets 5 à 7, en effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. L'argument des moqueurs au verset 4 est en réalité un argument de mauvaise foi. L'apôtre souligne qu'ils oublient volontairement quelque chose. Ils oublient volontairement certaines choses même et nient l'autorité des Écritures parce qu'ils ne veulent pas envisager l'idée d'un jugement à venir. Ils excluent intentionnellement de considérer le déluge et sa destruction comme une préfiguration du jugement à venir. Et c'est pourquoi Pierre rappelle comment Dieu a déjà agi dans le passé, comment il a agi par sa parole, en rappelant, en soulignant que la parole de Dieu se réalise toujours. Et ainsi, il rappelle au verset 5 la création par la parole et puis au verset 6 la destruction, le jugement par le déluge, par cette même parole de Dieu. L'argument des moqueurs tombe à l'eau, donc, c'est le cas de le dire, avec le déluge, car ils lisent l'histoire du monde sans y voir comment Dieu est déjà intervenu, comment il est déjà intervenu en accomplissant sa parole par le déluge, comment il y est déjà intervenu par la puissance donc de sa parole. Oui, la parole de Dieu est certaine. Ce que Dieu promet se réalise toujours. C'est la raison pour laquelle il dit au verset 7 que c'est par cette même parole de Dieu que les cieux et la terre de maintenant, d'aujourd'hui, sont gardés pour le jugement dernier. Ce premier argument de l'apôtre Pierre, c'est donc que tout comme le déluge est arrivé, suite à l'annonce que Dieu en avait faite, ainsi en sera-t-il du retour de Jésus ? Ainsi en sera-t-il de la fin de ce monde que nous connaissons, qui eux aussi ont été annoncés par la parole de Dieu. Le retour de Jésus est une certitude, car la parole de Dieu est certaine, et l'histoire le confirme. La façon dont Pierre parle des moqueurs fait penser aux signes avant-coureurs du retour de Jésus que nous pouvons trouver dans d'autres textes du Nouveau Testament. Pierre dit que dans les derniers jours, et vous savez que, bibliquement parlant, les derniers jours, ce sont les jours qui commencent avec la première venue de Jésus jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes, depuis 2000 ans, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, donc, dans le temps qui précède le retour de Jésus, il y aura des moqueurs. Des moqueurs qui nieront l'annonce du retour de Jésus et qui se moqueront de cette annonce. Rien de surprenant à cela. Ça veut dire que toutes les moqueries, toutes les railleries que nous pouvons entendre concernant le retour de Jésus, devrait nous rappeler que nous vivons dans les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, les moqueurs se moqueront de l'annonce du retour de Jésus. Cela devrait donc nous rappeler que nous vivons dans les derniers jours, et surtout, cela devrait nous rappeler que le retour de Jésus approche. C'est tellement difficile de se projeter. On est tellement dans notre réalité. Mais c'est bien cela que ça veut dire. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Et le signe des moqueurs en fait partie. Quand vous voyez des colchiques dans les prés, vous savez que c'est la fin de l'été. Et que l'automne est là demain. Quand vous entendez des railleries, des moqueries sur Jésus, sur son retour, vous savez que Jésus revient bientôt, que son retour approche. C'est un signe qui ne trompe pas, parce que dans les derniers jours, dit Pierre, il y aura des moqueurs qui se moqueront de l'annonce du retour de Jésus. Oui, le retour de Jésus est une certitude parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et ce qui est paradoxal dans ce texte, c'est qu'en réalité, les moqueries des moqueurs confirment cette parole de Dieu. Elles annoncent, ces moqueries, que Jésus revient bientôt. Comme deuxième argument, l'apôtre Pierre cite au verset 8 le psaume 90, verset 4. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que l'apôtre veut dire ici, me semble-t-il, c'est que Dieu a une autre perspective du temps qui passe. En tout cas, une autre perspective que la nôtre. Dieu voit les choses autrement. Il est bon d'en prendre conscience. La notion du temps pour nous n'est pas la même que pour Dieu. Ça va dans les deux sens, bien évidemment. Et pour Dieu, 1000 ans qui est un millénaire, c'est beaucoup pour nous. Pour Dieu, c'est comme un jour. Ça nous montre combien les choses sont différentes pour nous et pour Dieu. Et ça nous montre aussi combien notre compréhension des choses et des choses de Dieu et de Dieu lui-même en particulier combien notre compréhension de tout cela est finalement tellement limitée. Combien la personne de Dieu nous dépasse entièrement. Alors nous aimerions, nous voudrions mettre Dieu dans une boîte et tout comprendre de Dieu. Mais ce n'est pas possible, parce que Dieu nous dépasse complètement. 1000 ans sont comme un jour pour lui. Je ne sais pas moi ce que ça veut dire, je ne comprends pas. 1000 ans c'est long, je ne le verrai jamais de mon vivant. Un jour j'en ai vu quelques-uns. Voilà, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. On est devant un mystère insondable. Comment nous qui sommes des créatures finies, c'est-à-dire avec un commencement et une fin, pourrions-nous comprendre et mettre en boîte le Dieu qui est infini? Ce n'est pas possible. Le Dieu pour qui un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et vous savez quoi, si nous suivons la logique de cette image tiré des psaumes, alors en réalité, pour Dieu, ça fait 2 jours. Nous, on se dit, oh là là, ça tarde, hein, ça fait longtemps, 2000 ans. Pour Dieu, ça fait 2 jours. 2 jours que les chrétiens attendent le retour de leur Sauveur et Seigneur. Ça change la perspective. Et vu sous cet angle, la perspective et l'attente de son retour est vraiment différente. Vu sous cet angle, ce qui paraît être un délai bien trop long, 2000 ans, waouh, c'est en réalité une poignée d'heures à l'horloge de Dieu. C'est rien du tout. Et c'est cela que Pierre veut ici rappeler à ses lecteurs, c'est que Dieu a une autre grille de lecture. La compréhension que Dieu a de tout cela, de son œuvre, du retour de son Fils, bien évidemment, nous dépasse en réalité complètement. Et nous sommes invités à essayer d'entrer dans la pensée de Dieu pour autant que cela soit possible. Voilà le second argument de l'apôtre Pierre. La notion du temps qui passe n'est pas la même pour nous que pour Dieu. Le retour de Jésus est une certitude. Et même si des années, des siècles, des millénaires sont passés, se sont déjà écoulés, ne perdons pas courage parce que 1000 ans sont comme un jour pour Dieu et un jour sont comme 1000 ans. Alors en s'appuyant sur ce deuxième argument, l'apôtre Pierre va en avancer un troisième qu'il va tirer cette fois-ci du caractère de Dieu et il va dire au verset 9, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Le verset 9, en réalité, prolonge la perspective du rapport au temps qui est différent pour Dieu en soulignant que Dieu n'est pas en retard, comme certains le disent. Dieu est simplement patient. C'est sa nature. Et pourquoi Dieu use-t-il de patience? La réponse nous est donnée dans le texte. Il use de patience parce qu'il désire que tous soient sauvés, que tous les hommes arrivent à la repentance. La patience de Dieu, c'est la possibilité pour l'homme de se repentir. C'est la possibilité d'être sauvé. En fait, la patience de Dieu, c'est l'aspect de son amour en vertu duquel il supporte le mal et le méchant sans l'éradiquer tout de suite et il le fait en vue du salut du plus grand nombre. C'est ça la patience de Dieu, c'est cet aspect de son amour qui fait qu'il prend sur lui de ne pas détruire l'homme dans sa méchanceté tout de suite parce qu'il désire que beaucoup soient sauvés. Dieu est patient parce qu'il est amour. Dieu est lent à la colère parce qu'il est amour et parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire un petit peu plus loin au verset 15 quand il dit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Oui, la patience de Dieu est notre salut. Elle est pour notre salut. Et si nous pouvons être sauvés, moi et vous, si nous avons pu être sauvés, c'est parce que Dieu a usé de patience. Parce que Dieu est patient. Et parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Chers amis, si comprendre que la patience de Dieu est pour mon salut, c'est bien de le comprendre, pour notre salut, c'est aussi comprendre qu'elle est pour le salut des autres. Il faut bien garder cela. Et si je suis conscient de l'immense privilège de mon salut, alors je dois aussi être conscient de la grande responsabilité qui m'incombe d'être le témoin de cette patience, d'être le témoin de cet amour qui fait que Dieu repousse le jugement parce qu'il ne veut pas que les hommes périssent. Oui, Dieu est patient, mais sa patience prendra fin un jour. Mais pour l'instant, c'est encore le temps de la patience de Dieu. Et aujourd'hui est encore un jour de grâce, un jour où Dieu exerce sa patience pour le salut de quiconque croit en Jésus. C'est pourquoi ne nous lassons pas d'être les témoins du Dieu qui sauve, du Dieu qui est patient parce qu'il désire le salut. Ne nous lassons pas d'être les témoins de notre Dieu. Oui, le retour de Jésus est une certitude, quoi qu'en disent les moqueurs. Et dans ce troisième argument, l'apôtre souligne leur erreur sur deux plans. Premièrement, ils se trompent sur la notion de retard. Dieu n'est pas en retard. Il est simplement patient. Et puis, ils se trompent ensuite sur le motif du soi-disant retard. Si Dieu semble tarder, c'est en réalité parce qu'il veut le salut du plus grand nombre. Il reste un quatrième et dernier argument au verset 10, basé sur les paroles du Christ. Je lis le verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 42 à 44, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Le retour du Seigneur est une certitude. Seulement, il viendra, dit Jésus. Et Pierre, à la suite de Jésus, comme un voleur dans la nuit. Une image qui est là pour nous dire qu'il viendra sans que personne ne puisse dire quand. Il viendra quand nous n'y penserons pas. Dans ce quatrième argument, l'apôtre met le doigt sur le caractère tout à fait imprévisible du retour de Jésus. Tout comme la venue du voleur est envisagée, on sait que c'est une possibilité, mais elle est imprévisible. Ainsi en est-il de la venue de Jésus, une venue dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même Jésus quand il était sur terre. Vous connaissez ce texte, dans Matthieu 24, verset 36. Ce texte étonnant où Jésus affirme dans son humanité ne pas connaître l'heure de son retour. Un texte en tout cas qui, me semble-t-il, rend bien futile toutes les spéculations des hommes sur le sujet. Et toutes les spéculations des chrétiens en particulier sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a comme schéma pour nous expliquer comment ça va se passer, à quel moment, et à peu près nous dire même le jour et peut-être même l'heure pour certains. L'aspect imprévisible du retour de Jésus, voilà ce dont l'apôtre parle ici. Et cela a au moins une incidence directe importante pour chacun de nous. C'est que personne, je dis bien personne, ne pourra se préparer au dernier moment. Ça, c'est une des incidences directes extrêmement importantes. Personne ne peut dire « j'ai le temps et quand je vais voir que ça arrive, alors je vais régler mes affaires et je vais me mettre en règle devant Dieu ». Mais ça, ce n'est pas possible. Parce que le retour de Jésus est totalement imprévisible. Dans une maison, je peux mettre une alarme avec des efficacités, pas toujours, voilà. Mais je peux mettre une alarme pour me dire quand quelqu'un va forcer la porte, quand le voleur est là. Mais pour ce qui est du retour de Jésus, il n'y a pas d'alarme qui fonctionne. Aussi sophistiquée soit-elle, il n'y a rien qui pourra vous dire « attention, c'est demain, c'est cette nuit ». Non, non, non. Les derniers jours, ça fait déjà 2000 ans. Hein. Donc, on ne sait pas. Est-ce que ça dure encore 24 heures? Est-ce que ça dure encore 2000 ans? Est-ce que ça dure une semaine? Qui pourrait le dire? Et c'est la raison pour laquelle être prêt pour le retour de Jésus, c'est être prêt dès maintenant. C'est ça l'autre incidence importante. Si je veux être prêt pour le retour de Jésus, je dois absolument être prêt maintenant. Parce que s'il vient dans 5 minutes, je n'aurai pas le temps de me préparer. Je ne l'aurai pas vu venir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Nous serons tous mis devant le fait accompli. Mais là, il sera trop tard pour choisir son camp. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous seriez prêt à rencontrer votre Créateur là maintenant, s'il vous appelait à lui? Être prêt, c'est simplement s'en remettre à la grâce de Dieu. C'est reconnaître que je suis pécheur et coupable devant lui à cause de mon péché. C'est me repentir de mes péchés. C'est croire que Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour que je puisse être pardonné, réconcilié avec Dieu et qu'il me l'a offert gratuitement. Et c'est accepter cette œuvre du salut de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Accepter Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, c'est encore le temps de la patience de Dieu. C'est encore le temps où les hommes et les femmes, des hommes et des femmes peuvent se préparer s'ils ne sont pas prêts. La fin du verset 10 décrit ce jour du Seigneur, ce jour où Dieu interviendra pour mettre un terme à l'histoire de ce monde. Avec les mots suivants, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Faut-il comprendre, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, faut-il comprendre le feu dont il est question ici, littéralement, symboliquement? Ça ne vous satisfera peut-être pas, mais il me semble que les deux lectures sont possibles. Soit il s'agit du feu du jugement divin, qui dit symboliquement l'action purificatrice de Dieu sur sa création, qui a été entachée par le péché. Soit il s'agit d'un feu, instrument de destruction, comme l'eau l'a été pour le déluge, pour ce monde marqué par le péché. Je ne poursuis pas dans cette direction, mais une chose est sûre, que les cieux et la terre soient détruits par le feu, littéralement ou pas, que notre texte là doivent être compris littéralement ou de manière figurée, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce jour du jugement sera aussi un jour de création. Le jour du jugement dernier sera aussi un jour de création. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre dit à la fin du passage que nous avons lu, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » La seule caractéristique de cette nouvelle création que Pierre a jugé bon de mettre en avant ici, c'est que les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront un endroit où la volonté de Dieu sera parfaitement accomplie. Où la justice sera parfaite. Je ne sais pas si ça vous fait rêver, mais moi, ça me fait rêver. Moi, ça me donne envie. Ça me donne envie parce que nous vivons dans un monde qui est profondément injuste. Nos vies tout entières, les vies des personnes que nous côtoyons sont marquées par l'injustice, de leur naissance jusqu'à leur mort. Il y a beaucoup de choses injustes, beaucoup, beaucoup, nous le savons tous. Et d'imaginer ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où la justice habitera, où il n'y aura plus d'injustice. Mes amis, moi ça me transporte. Ça me donne envie d'y aller. Bon, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais bien que ça c'est le Seigneur qui décide. Et ça, c'est l'espérance qui est donnée à notre foi. Et vous savez, la foi, vous connaissez ce texte de l'Épître aux Hébreux, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est la raison pour laquelle notre espérance est une certitude. Par la foi, nous savons que Jésus va revenir, que c'est vrai. Et que quand il reviendra, il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Bon, il faut terminer. Et pour terminer, j'aimerais simplement souligner deux des appels que l'apôtre adresse à ses lecteurs dans ce passage. Après leur avoir donné ces quatre arguments pour étayer la certitude du retour de Jésus, il les appelle à mener une vie sainte et pieuse. Puisque tout cela est en voie de dissolution, c'est en marche, le train est en marche et personne ne l'arrêtera. Aucun dictateur sur cette terre, aucune arrogance n'empêchera la venue de Jésus. Soyons-en convaincus. Soyons-en convaincus. Donc, puisque tout cela est en voie de dissolution, ce monde pécheur va passer. Ce monde marqué par la souffrance et le péché va disparaître. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, dit Pierre. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Après donc avoir affirmé et argumenté le retour de Jésus, l'apôtre les exhorte à mener une vie sainte, une vie pieuse, c'est-à-dire une vie séparée du péché. Alors pourquoi ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, j'en souligne simplement une. Sans doute pour que rien ne nous fasse honte quand nous nous tiendrons devant lui. Pour que rien ne nous fasse honte quand nous nous tiendrons devant lui. C'est en tout cas ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître. Il dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui une vie sainte et pieuse, afin qu'au moment où il sera manifesté, on parle de Jésus, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, manifesté, avènement, c'est la même chose, nous n'ayons pas honte devant lui. » Peut-être ce sont des paroles qui peuvent nous faire peur, parce que nous nous savons pécheurs. Nous avons tous quelques casseroles, des choses dont nous ne sommes pas fiers. Alors, si c'est le cas, souvenons-nous que nous avons en Jésus-Christ tout dont nous avons besoin pour faire face à cela. Et au début de cette deuxième lettre, l'apôtre Pierre dit ceci: « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Tout est en Christ. Nous avons tout là pour mener la vie à laquelle il nous appelle. Et puis souvenons-nous aussi que s'il nous arrive, ou quand il nous arrive, parce que c'est malheureusement inéluctable, quand il nous arrive de chuter, si nous confessons nos péchés, c'est l'apôtre Jean qui le dit, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Et ainsi, chers amis, par la grâce de Dieu, nous pourrons tenir devant lui sans être dans la honte, parce que nous serons au bénéfice de sa grâce qui nous a pardonnés et qui nous a purifiés de tout péché. Ça, c'est le premier appel que l'apôtre Pierre fait dans ce passage. Et puis le deuxième appel, et je m'arrête avec ça, c'est celui d'une attente active. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez le retour, l'avènement du jour de Dieu. Notre attente du jour où le Seigneur va revenir ne doit pas être une attente oisive, une attente passive. Bon, il va revenir, bon, allez, je m'occupe en attendant et puis... Non, ce n'est pas ça. Ça doit être une attente active, une attente entreprenante. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Comment hâter, hein? Là, on pourrait faire une prédication, mais bon, je ne vais pas vous faire cela, bien sûr. Mais trois choses que j'esquisse, simplement. Comment hâter l'avènement du jour de Dieu que nous attendons, premièrement en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle du salut, et c'est Jésus lui-même qui le dit dans l'Évangile de Marc. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Bon, ben allons-y, quoi. Travaillons. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer toutes sortes de nationalités. On a tout ce qu'il faut sous la main. Et puis si Dieu en appelle l'un ou l'autre à aller au loin, c'est bien aussi. Mais on a tout ce qu'il faut à portée de main. Comment hâter l'avènement du jour de Dieu que nous attendons, deuxièmement, en priant que ton règne vienne. Je ne sais pas si, moi c'est un verset qui m'a saisi il y a quelques années, que je connaissais par cœur, mais que je n'avais pas compris. Nous devons prier que ton règne vienne, que ton retour soit là demain, nous devons l'attendre, l'espérer, que ton règne vienne. Est-ce que ça fait partie de ce que nous désirons? Il y a bien des fois où j'y pense pas. Mais nous devons prier que ton règne vienne. Et puis, troisième et dernièrement, comment hâter l'avènement du jour de Dieu que nous attendons? C'est ce que nous avons dit, en menant une vie sainte, une vie de piété. Et on pourrait ajouter, je le mets simplement à l'écran, ce texte de Actes 3, 19-21, où il est question de repentance et de conversion pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Voilà certaines des choses que l'on peut dire concernant cette attente active qu'il nous faut avoir. Chers amis, la venue du Seigneur est certaine. Nous pouvons le dire par la foi, c'est une certitude. Quoi qu'en disent les moqueurs, ils sont nombreux, ils ont pignon sur rue, on les entend à la télé, on les voit sur nos médias, sur nos réseaux sociaux, ils sont là, et vous les avez déjà entendus. Quoi qu'en disent les moqueurs, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Quoi qu'en disent les moqueurs, Dieu est entièrement maître du temps et sa perspective n'est pas la nôtre. Quoi qu'en disent les moqueurs, Dieu n'a pas oublié. Il est simplement patient parce qu'il veut que beaucoup de ceux qui le rejettent encore se tournent vers lui. Quoi qu'en disent les moqueurs, elle viendra. Cette venue du Seigneur, comme un voleur dans la nuit. Et il nous faut donc être prêts dès maintenant, si nous voulons être auprès du Seigneur pour l'éternité. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce à chacun de comprendre ces choses, pour que nous soyons prêts à notre mort, si c'est ainsi que Dieu nous conduit, ou alors de notre vivant, si le Seigneur revient bientôt. En tout cas, que le Seigneur nous fasse la grâce à chacun de nous préparer et d'être prêts pour son retour. Amen.